chronique de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Et maintenant, retrouvons Anthony pour une chronique qui se dirige vers la Chine.
Merci mon cher Hugo, bonjour. Effectivement, on va se diriger du côté de la Chine et plus parler de Mulan. De nos jours, qui ne connaît pas Mulan? Si je vous dis Mulan, vous certainement pensez à Disney, et c'est normal. Ce film est tellement culte que de ne pas l'avoir vu serait un blasphème. Mais, pour ceux qui ne l'ont pas vu, eh bien déjà, je vous conseille d'aller le voir, et ensuite je vais vous faire un court résumé de ce qu'est Mulan. Et ne venez pas vous plaindre de vos spoilers, c'est un film qui est sorti en 98, vous aviez largement le temps de le voir. Alors Mulan, donc, c'est une jeune chinoise qui vit pendant la grande invasion des Huns, les Huns dirigés par leur chef Shan Wu. Donc là, il faut imaginer que c'est la guerre, c'est terrible. Et c'est pour ça que l'armée chinoise va venir recruter tous les fils de chaque famille. Sauf que Mulan, ben, elle est fille unique. Et les filles, ça va pas à la guerre. Enfin, du moins à l'époque. Donc c'est son père qui prend sa place. Sauf que deuxième problème, eh ben, son père, il est vieux. Il tient plus debout. Et donc en fait, il peut pas aller à la guerre. Et du coup, Mulan va se travestir. Donc elle va se déguiser en homme pour prendre la place de son père et aller à la guerre à sa place. Et voilà, après... On ne va pas tout dire non plus, mais elle se fait accompagner par un petit dragon appelé Mouchou. Voilà. On vous garde la surprise du film. Mais tout ça pour dire que le film était incroyable. Pour vous dire, il a apporté plus de 300 millions de dollars, ce qui n'est pas rien. Et pour finir cette petite chronique sur Mulan, il faut savoir que le film respecte plutôt bien l'œuvre originale. Parce que oui, Mulan, à la base, c'est un bouquin qui est écrit par Uefi Gigi, qui raconte la même histoire que j'ai citée précédemment. À quelques détails près, c'est-à-dire que Mushu n'est pas un dragon mais un humain, il n'y a évidemment pas les chansons de Disney, et malheureusement à la fin Mulan ne trouve pas l'amour. Merci à tous.
Bien, merci Anthony, je me coucherai moins bête ce soir. Eh bien, restons en Chine avec Dorian et sa chronique sur l'horoscope chinois.
Bonjour Hugo, nous avons l'habitude de donner votre horoscope dans notre émission, mais pour cette émission spéciale où nous parlons de l'Est, je me suis dit qu'on pourrait parler de l'horoscope chinois. Anthony, quelle est votre date de naissance? 1996? Eh bien, vous serez donc de l'année du rat. Et votre mois de naissance? Novembre, il me semble. Vous êtes donc de l'élément du feu. Un rat de feu. Vous allez me dire, un rat, c'est loin d'être glorifiant. Mais c'est parce que l'horoscope chinois est basé sur des signes très différents de nos 12 signes du zodiaque traditionnel. Mais même si le rat peut paraître ragoûtant, il est bel et bien noble dans la culture chinoise. Il fait bel et bien partie des animaux du zodiaque, comme le buffle, le tigre, le dragon ou bien d'autres. Et en parlant du rat, si vous ne connaissez pas sa malice, vous allez être surpris car dans la légende, la sélection des signes de l'horoscope chinois se faisait par une course. Pendant cette course, le malicieux rat oublia, entre guillemets, de réveiller le chat. Le chat absent s'est vite fait remplacer par le rapide lapin qui prit sa place parmi les signes chinois. Et oui, vous ne pourrez donc pas être du signe du chat, chers auditeurs adorateurs de ces bêtes de poils. De plus, pourquoi l'année commence avec le rat? Eh bien car cette même course pour être sélectionné signe de l'horoscope chinois se terminait par la traversée d'une rivière. Le bœuf, gentil comme tout, accepta de porter le rat entre ses cornes pour le faire traverser. Mais au moment de toucher la rive, le rat sauta à terre et devança donc le bœuf sournoisement. C'est ainsi que l'astrologie chinoise débuta par le signe du rat. Alors si tout ça vous a intrigué, allez voir votre signe de l'horoscope chinoise sur notre site internet et découvrez les histoires qu'il renferme.
Eh bien, je vais y aller de suite. Merci beaucoup, Dorian.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Donc après ce petit détour au Japon, nous retournons en Chine avec la chronique de Luca.
Voilà, donc direction la Chine à présent, comme Hugo vient de vous le dire. Et je vous laisse d'abord pour commencer avec un extrait musical afin de vous présenter mon sujet.
Ils ont mis ma maison sous scellé, hérissé les murs barbelés, cloué une plaque non civilisée et m'ont laissé les yeux embués. Une semaine avant, on le savait, un SUV vert nous suivait. Ils ont laissé mon père pour décéder. Et ma mère, ils l'ont stérilisé. Un million de Ouïghours mis à huis clos pour des images religieuses dans leur Ouïghour. T'es suspecté si tu te mets à parler turc. Barbe et foulard sont interdits dans les bus. Un haut-parleur diffuse une voix métallique. Dans les rues de la ville, on entend Xi Jinping qui nous exhorte à rejoindre le parti et lutter activement contre le terrorisme.
Un extrait donc du rappeur normand Medine intitulé « Enfant du destin, Sarah ». Vous l'aurez sans doute compris, je vais vous parler aujourd'hui du drame qui est perpétré contre les musulmans ouïghours en Chine. Le rappeur fait ici le récit d'une jeune fille ouïghour nommée Sarah. Bien que le récit soit fictif, les éléments qui y sont présentés sont bien réels et se déroulent en ce moment même en Chine au XXIe siècle. Pour vous situer un petit peu, les Ouïghours sont un peuple turcophone à majorité musulmane, habitant la région autonome ouïghour du Xinjiang en Chine. On recenserait en 2020 entre 12 et 20 millions de Ouïghours en Chine. Cette minorité y est donc exploitée. Après avoir été traqués, torturés et même drogués pour être plus dociles, ils sont enfermés dans les camps de rééducation, comme défini par Pékin, sous couvert de lutte contre le terrorisme. Entre 2 à 3 millions d'Ouïghours y seraient menés en train, les yeux bandés. On leur rasera le crâne, dès leur arrivée et ils y seront forcés à travailler, gratuitement évidemment. On les forcera même à manger du porc et boire de l'alcool pour bafouer les principes de leur religion. Tout ceci vous rappelle sans doute une sombre époque de l'histoire dans laquelle personne ne souhaite se replonger, le génocide contre les Juifs durant la Seconde Guerre mondiale.
Mais du coup, peut-on aussi parler de génocide contre les Ouïghours ?
Alors oui, si nous pouvons utiliser cette notion de génocide pour le peuple des Ouïghours, c'est par rapport à un point important, la stérilisation de masse. En effet, les autorités chinoises utilisent ce procédé contre les Ouïghours, l'entrave aux naissances étant un des 5 critères pour définir un génocide.
Mais alors, qui exploite les Ouïghours sur le territoire chinois ?
Une liste a été dévoilée récemment. Toutes les marques citées collaborent avec des filiales faisant manufacturer leurs produits en travail forcé par les Ouïghours. On y retrouve Nike, Apple, Asus, Adidas, Nintendo, Google, Lacoste, Ralph Lauren, Mercedes et j'en passe. Une liste de 83 marques plus reconnues les unes que les autres. Nous sommes donc tous concernés par l'exploitation des Ouïghours dans le sens où chacun d'entre nous consomme des produits des marques précédemment citées. H&M, Calvin Klein, Tommy Hilfiger se sont engagés quant à eux à rompre toute collaboration avec des fournisseurs chinois exploitant les Ouïghours. Crimes contre l'humanité, droits de l'homme bafoués, pratiques inhumaines, il est temps de réagir et de faire cesser le plus grand internement du XXIe siècle.
Ben merci beaucoup, Lucas.
Ben merci à vous.
Eh bien, maintenant, nous retrouvons Romain, qui nous emmène dans un univers plutôt sympathique, le jeu vidéo. Bonjour, Romain.
Oui, bonjour à tous les auditeurs. Aujourd'hui, on voyage à l'est du globe. Direction le Japon pour vous présenter Nintendo.
Mais Nintendo n'a pas commencé par le jeu vidéo.
Alors, Nintendo n'est pas né du jeu vidéo à la base. La société de plus de 100 ans faisait des cartes à jouer, des jeux traditionnels ou jeux électroniques. C'est au début des années 1970 que Nintendo se tourne vers un tout nouveau marché, le jeu vidéo. C'est en apportant la Magnavox Odyssey au Japon que Nintendo fait le premier pas dans l'industrie.
C'est super ça, mais quels ont été les premiers succès de Nintendo ?
Alors en 1980, Gunpei Yokoi lance une console de jeu portable, la Game & Watch. D'ailleurs, pour la petite histoire, Yokoi avait eu l'idée lorsqu'il voyageait en train. Un homme s'amusait avec sa calculatrice pour passer le temps. Et paf, l'idée des jeux vidéo de poche est née. L'autre grand succès est la NES pour Nintendo Entertainment System. C'est sur cette console que vont naître de grands noms comme Mario, Zelda ou Metroid. Nintendo a écoulé pendant 11 années 62 millions de NES pour 500 millions de jeux vendus. Un succès grandissant malgré le crack de 1983. Dans le milieu du jeu vidéo, ça a totalement bouleversé la manière de faire des jeux. Un crack dont seuls les Américains sont responsables et qui a eu de fâcheuses répercussions sur l'industrie.
Très bien, mais du coup, les succès actuels ?
Alors, c'est bien des années plus tard, en 1993, le Super FX, une puce dans les cartouches de Super Nintendo qui permettait de faire des jeux en 3D. C'est avec la Super Nintendo que la firme Nippon tient tête à PlayStation et la Saturn. En 1993, la Game Boy ainsi que Pokémon vont relancer Nintendo. Un véritable succès planétaire qui a marqué toute une génération de jeunes joueurs. Une innovation avec un certain succès aussi, la Nintendo DS qui sort en 2004, trois mois plus tard, 1 million d'exemplaires à travers toute l'Europe. Incroyable. Encore une révolution dans le paysage vidéoludique, la Wii, un véritable succès. Elle a réussi à cibler des joueurs occasionnels. Elle fut la deuxième console de salon la plus vendue de l'histoire après la PS2. Enfin, la Switch, qui connaît un début de carrière canon en ce moment, à l'ère de la mobilité et du tout connecté, c'est une console mixte qui est une véritable pépite technologique. Donc, le parcours de Nintendo est couronné de succès, un quasi sans faute malgré la Wii U. La firme a su marquer les esprits et continue à faire sourire les gens par leurs jeux, que je vous recommande bien sûr. Je laisse la main à Hugo.
Eh ben, merci beaucoup Romain pour cette chronique.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Après la Chine, on retourne au Japon avec la chronique de Gaël.
Alors, je vais continuer notre voyage toujours dans l'Est avec une tendance vestimentaire nommée Ayajuku. Cette mode existe depuis un bon moment déjà au Japon. Le but est plutôt simple. Mettez ce qui vous plaît, ce qui vous rend heureux. Ignorez le regard des autres et entourez-vous de positivité. Vous aimez les accessoires? Eh bien, mettez-en autant que vous voulez jusqu'à vous faire plaisir. Vous appréciez une tenue, mais vous avez peur du regard des autres? N'hésitez pas, foncez et surtout, ben, place à la bonne humeur. Le style Ayajuku représente aujourd'hui beaucoup plus de choses. De nombreuses tendances vont et viennent. Et cette mode demeure néanmoins dans la capitale japonaise comme une mode assez importante. Il y en a pour tous les goûts. Vous aimez les couleurs pastel, il y a le feriki. Vous aimez le noir avec une apparence plus mature, il y a le guluki. Les accessoires, les couleurs flashy, il existe le doraki. Évidemment, avec autant de personnes aux goûts différents, il existe une multitude de styles qui ne fait que multitude de styles différents et je n'ai fait qu'effleurer la surface de l'eau. Cette tendance est une réponse à un manque d'individualité au Japon. Je ne vous le cache pas, le Japon est connu pour ses règles sociales strictes. C'est une société qui donne de l'importance au groupe plutôt qu'à l'individu. Ce n'est pas pour rien que les enfants comme adultes portent très souvent des uniformes. C'est pourquoi des personnes ont commencé à vouloir simplement s'habiller comme ils le veulent. La mode Ayajuku est simplement un mouvement qui s'oppose aux règles strictes et à la pression de s'adapter à la norme. Je pense qu'une touche d'originalité et de positivité est quelque chose dont on a besoin ces derniers temps. Mettez les vêtements que vous préférez et soyez fiers de qui vous êtes.
Eh bien, des paroles pleines de sagesse. Merci beaucoup, Gaëlan.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Eh bien, continuons avec le Japon et Chanel et sa chronique.
Bonjour. Alors, restons dans le domaine du jeu vidéo au Japon et cette fois, nous ne parlerons pas de Nintendo, mais de Capcom. Plus précisément, je vais vous raconter l'histoire de la série mythique Resident Evil. Alors, je ne parle pas des adaptations filmiques américaines qui se passent de commentaires, mais de la série de jeux vidéo développée par la société japonaise Capcom. Alors, Capcom, c'est aussi Street Fighter, Monster Hunter ou encore Mega Man, pour ceux qui connaissent. Alors, Resident Evil, qu'est-ce que c'est ? L'aventure démarre en 1996, quand Capcom met au monde le premier opus de la saga sur la première PlayStation, la console dont les graphismes font plus peur que le jeu lui-même. Au Japon, le jeu ne s'appelle pas Resident Evil, mais Biohazard, danger biologique en français, mais le nom a été modifié à l'étranger à cause de droits d'auteur détenus par un groupe de musique aux États-Unis. Dans ce premier jeu, donc, le décor est posé dans un manoir infesté de zombies où une unité spéciale de police, appelée les Stars, se retrouve piégée. Le joueur incarne Oshua, Chris Redfield ou Jill Valentine, deux personnages importants de la série. Ils vont découvrir qu'une société de recherche pharmaceutique appelée Umbrella Corporation exploite un virus pour créer des armes biologiques. C'est dans Resident Evil 2, sorti 2 ans plus tard, qu'on se retrouve dans un vrai scénario d'invasion de zombies. Leon Kennedy arrive à Raccoon City pour son premier jour en tant que policier, le pauvre. Il va croiser Claire Redfield, une simple civile qui se balade quand même avec un flingue et qui cherche son frère dans cette vie infectée. C'est avec ce second jeu que la série gagne le plus en popularité. Avançons un peu jusqu'en 2005, où sort Resident Evil 4, après 6 ans de développement. On y retrouve Leon Kennedy, alors devenu un agent spécial. envoyé en Espagne par le gouvernement américain pour sauver la fille du président, qui a été enlevée par une mystérieuse secte. Et là, c'est le buzz. On retrouve le jeu en tête des ventes et des classements. Meilleur jeu de l'année, meilleur jeu GameCube de tous les temps, deuxième meilleur jeu des années 2000, et j'en passe. Ce succès va pousser Capcom à adapter le jeu sur toutes les plateformes, de la PlayStation 2 à la Nintendo Switch, PC et même smartphone. Et on attend un énième remake pour 2022. Les deux jeux suivants s'éloignent un peu du genre survival horror et font prendre à la série un tournant vers l'action-aventure en introduisant des modes multijoueurs. Le dernier volet de la série sorti en 2017, Resident Evil 7 si on fait bien les comptes, va redresser la barre et faire prendre un nouveau souffle à la saga. Le jeu se joue pour la première fois à la première personne, le scénario n'a plus beaucoup de liens avec les précédents jeux et tous les personnages sont inconnus au bataillon. Et la peur est de nouveau au rendez-vous, comme dans les premiers opus, et ça c'est bien. On compte aujourd'hui un total de 27 jeux, dont les 7 épisodes numérotés. Le 8e volet, Resident Evil Village, a été annoncé pour l'année prochaine et sera donc disponible sur les dernières consoles de Sony et Microsoft, ainsi que sur PC. On y retrouvera les personnages de Resident Evil 7, ainsi que Chris Redfield, un des protagonistes des opus précédents. Resident Evil est donc une franchise phare dans l'industrie du jeu vidéo, comme beaucoup de franchises japonaises, dont Nintendo convoite des contrats d'exclusivité. Alors j'espère avoir piqué votre intérêt pour la série, et entre nous, quoi de plus immersif que d'exterminer des zombies en pleine pandémie ?
Je suis bien d'accord avec toi. En tout cas, merci beaucoup pour cette chronique.
Je vous en prie.
안 가봤어도 난 완전하지 다 사봤지 그래서 난 돈으로 돈 사는 지경에 이르렀다 리미를 에디션 미련 없다 무슨 유캐 건물을 회사 건물을 묶어놓은 다이소에서 지른 두천 오메 미시 갱 언더그라운드 록스타 힛맨 소맨 야근 부법에 난 이렇게 만내 새 벨리 펄시 다 보니 역경 차가자 새 AP 뭘 사도 내 손 하면 키스가 나 최근 벗은 여자만이 봤지 그늘을 이제 강인 누르봐 나이키 수준 추리닝을 입고 가지 안 사도 신발 매일이 새로와 아무 생각 없이 그냥 누구 보든 봤어 돈에 프라도야 들어와 자랑 따위 없는 내 브로 근데 같은 새끼들은 괴로워 나이 소비 안에는 밴 체크 밴 체크 밴 여자보다 페라몬 아웃핏은 매일마다 새로워 미녀처럼 부자는 괴로워 I am brag 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 해신이 태원 창모는 건데 홍강남 애쉬 아무데나 와 누나들이 좋대 밴 체크 밴 체크 밴 체크 밴 체크 천하배 만하배 사이배 자매배 마오배 파오배 예배 유럽배 밴 체크 밴 체크 밴 체크 밴 체크 천하배 만하배 사이배 자매배 마오배 파오배 예배 유럽배 나의 굳지 않은 벤스 50에 모자 따위는 구부려 챙 어쩌면 우리를 슈퍼용께 나무려 왜 넌 사임이 아니고 누구냐고 물어 벤 사람 프랭클린 왜 이래를 채 씨발 쪽팔리게 허니 벤스를 파도 까먹고 끌어내리는 웨이 비션 웨이 포인 카 포인 캐시 not enough 니를 포스 다운 머세데스 벤스 사치 부리지 넌 거 못 본다면 갑자기 분위기 내 걱정이랑 영화가 많네 촉간이 할로우 러브인 나는 그런 이유 동생의 오빠가 됐네 괜히 욕쳐먹는 연예인이 됐네 어릴 때 적사랑을 해서 잠시 근데 지금 나는 게 전애인이 됐대 왜? 진입금지어 미션 부스클럽에서 피리 불어 나만 취했지 출처 모르게 나간 돈이 생각이 나 때면 뒤지는 병 계속 벌어 그게 우리들이 이미 쓴 돈을 대하고 기리는 법 기리는 법 에이
Okay. Bad check, bad check. With a bitch, gang gang. 오늘은 내 payday. Name tag은 애쉬 내 이름이 내 gang trap. 매일 뚫어 세탁. 개쩌는 내 인생 21 밖에 안 됐는데 왜 이래? 갱생 출신의 비숑 gang gang. 하늘에서 현매. 네 친구 다 데리고 와봐 진심 부른 다 우리 앞에 빈 깡통. 자랑 아닌다면 티가 날 뿐 너 복통 나잖아. 누구에게 착한 놈? 누구에게 씨발놈? 부러워하지 말고 일이나 해라 좀 걱정되잖아. 만들어 고 해쉬는 또 이게 난 되는 게 알거든 돈 근데 저 새끼를 꼭 돈 때문에 한 대나 지랄을 또 취미는 놈 돈 쓰기 호 친구를 만나 술 마시고 놀 Pablo Music Vision Gang 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 왜 친구랑 같이 만들어 돈
Nice to be honest Bad check bad check bad check bad check 천하배 만하배 사이배 자매배 마오배 파오배 예배 유럽배 Bad check bad check bad check bad check 천하배 만하배 사이배 자매배 마오배 파오배 예배
천하배 만하배 사이배 자매배 마오배 파오배 예배 유럽배 여기 내가 번 돈으로 수용해. 멀리 안 가도 돼 그만 운전해. 너를 데리고 날아가 유럽에. 나도 가본 적은 없지 유럽에. 그저 가고 싶은 마음이 없으네. 그저 사랑하고 싶은 마음도 좆도 없으네.
그런데 시간이 없어. 그 시간에 돈 벌어 5천만 원은 더 땡겨야 돼. 마음이 편할 거 바로 앨범 한 장 더. 너나 놀고 잡아줘. 다행이야 내 옆에 년이 아니 너랑 써.
5천만 원은 개뿔 세금 띄고 10억은 더 박아도 야지 눈 감았네. 나는 여자보다 돈이 더 좋고 당연히 그 돈보다 너를 안 사랑해. 그런데 너를 사랑하는 바람에 그래도 너를 사랑하는 바람에 나는 떠나기 싫어 갈 바람에 나 곁처럼 떨어져 눈물과 돈이 바르게.
Bonjour. Alors, ça vous est sûrement arrivé lors d'une conversation que l'on essaie de deviner votre signe astrologique ou même qu'on vous le demande. Eh bien, au Japon, c'est votre groupe sanguin que l'on vous demandera. Donc, pour environ 60% des Japonais, notre caractère serait influencé par notre groupe sanguin. Alors, selon cette idée, si vous êtes groupe A, vous êtes honnête, créatif, patient et réservé, mais têtu et vous cédez rapidement au stress. Pour les groupes B, vous êtes enthousiaste, fort, entreprenant, mais égoïste, irresponsable et imprévisible. Les AB sont plutôt décontractés, calmes, sociables, bien qu'indécis et étourdis. Ça, c'est le groupe le moins apprécié au Japon. Et enfin, le groupe sanguin fort du jour. Ça y est, j'ai l'impression de faire l'horoscope. Donc, les groupes O, vous êtes ambitieux, passionnés. Par contre, vous êtes arrogant, accro au travail. Et ça, bizarrement, c'est ce que préfère la société japonaise. Donc, du coup, dans tout ça, Hugo, est-ce que ça colle à peu près ?
Ben oui, mais d'où vient cette croyance ?
Alors, l'idée d'un groupe sanguin qui serait lié à notre caractère, c'est une idée qui est présente dès les années 30. Ça va un peu se perdre, puis ça va revenir en force dans les années 70, avec un journaliste du nom de Masahiko Nomi, qui au passage, il n'a aucune qualification scientifique, ni médicale ou quoi que ce soit. C'est lui qui va vraiment ancrer ce mythe. Il va défendre cette théorie avec plusieurs livres, et même si c'est très critiqué par les scientifiques, ça va quand même être très populaire.
Et il y a quand même des scientifiques qui sont penchés sur ça ?
Alors oui, il y a des études très sérieuses qui ont été menées pour savoir si finalement il y avait du vrai dans tout ça, mais bon, rien de très concluant n'en est sorti en fait. En revanche, des psychologues japonais ont réussi à démontrer que les personnes soumises à l'influence de cette croyance, eh bien, ils avaient tendance à accentuer les traits propres à leur groupe sanguin. Donc, pour faire court, si vous y accordez de l'importance, vous allez modifier vos traits inconsciemment et du coup, bah, ça deviendra vrai. Mais il n'empêche que c'est une croyance quand même très populaire. D'ailleurs, on trouve un peu tout en rapport avec son groupe sanguin, hein, des porte-clés, des chaussettes, jusqu'aux sites de rencontres spécialisés et même des régimes. Bon, le problème, contrairement à l'horoscope, c'est qu'il y a beaucoup de discrimination par rapport au groupe sanguin, notamment dans les écoles, mais aussi dans le monde du travail. Donc, si vous êtes du groupe O, par exemple, vous allez avoir beaucoup plus de chances d'être pris à un entretien par rapport aux autres groupes. Ça ne veut même pas dire que vous êtes plus compétent, hein. C'est vraiment juste par rapport à votre groupe sanguin. Donc bon, au final, est-ce que ça compte vraiment le groupe sanguin dans les relations humaines ? Au même titre que le signe astrologique, hein, d'ailleurs. Hein. Soyez simplement qui vous êtes, prenez les gens comme ils sont, vous ne prenez pas la tête et vous ne faites pas de mauvais sang.
Encore une fois, des paroles pleines de sagesse. Merci beaucoup, Joanne, pour cette chronique.
Les chroniques de l'Orient Express. Une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Du coup, maintenant, après toutes ces belles chroniques, parlons sport et surtout d'un événement très important qui va se dérouler à Tokyo.
Bonjour à tous et à toutes. Eh bien, aujourd'hui, je vais vous parler des Jeux Olympiques de Tokyo 2020, enfin, initialement prévus en 2020. Donc, il faut savoir que Tokyo, c'est la deuxième fois qu'ils accueillent l'événement. Donc, 56 ans après avoir accueilli ses premiers JO, la capitale nippone organisera pour la deuxième fois les Jeux Olympiques d'été. Pour l'organisateur, je cite, « Ces Jeux seront les plus innovants jamais organisés. »
Du coup, il y a des changements majeurs par rapport aux anciens JO ?
Eh bien, oui. Les Jeux utiliseront au maximum des installations déjà existantes. Surtout celles utilisées pour les Jeux Olympiques de 1964. Ça évitera aux organisateurs de connaître le même cauchemar que les Jeux Olympiques d'Athènes en 2004, où les infrastructures ont totalement été laissées à l'abandon. Le Japon organisera ses 4e JO en comptant
en comptant ceux d'hiver. C'est la première ville asiatique à les avoir accueillis.
Et donc, des nouveaux sports sont prévus pour ces JO ?
Eh bien oui, à part les 28 sports du programme olympique, on verra 5 nouveaux sports. Le karaté, le baseball, le skateboard, l'escalade et le surf. L'ajout de ces sports, ils ont pour but en fait d'attirer les plus jeunes et d'ajouter une note plus urbaine aux Jeux Olympiques. Sinon, Tokyo vise une participation de 48,2% de femmes pour les Jeux Olympiques. Ce seront la première fois que les JO auront presque l'équilibre en termes de sexe. Il y aura en tout 165 épreuves masculines et 156 épreuves féminines. On peut aussi rajouter les 18 épreuves mixtes.
Et du coup, les Jeux Olympiques étaient donc prévus pour 2020.
Et oui, les JO sont organisés tous les 4 ans. Les derniers Jeux Olympiques étaient à Rio en 2016. Mais à cause de la crise sanitaire que nous sommes en train de vivre, les Jeux Olympiques ont été reportés à l'année prochaine. Et l'événement se tiendra donc du 23 juillet au 8 août 2021.
Eh bien, très bien. Merci beaucoup pour cette petite note de sport, Mathieu.
Mais de rien, Hugo. C'est avec plaisir.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Ah, et bien du coup, on retrouve Anne-Laure pour une chronique sur la Corée.
Bonjour Hugo. Alors, que pensez-vous de la Corée du Sud ? C'est la belle vie. Des villes high-tech, de beaux paysages, une belle culture, des idoles, de la bonne nourriture, tout est parfait. Malheureusement, ce n'est qu'une couverture. En Corée du Sud, la pression de la femme et l'aspect misogyne sont plus présents qu'en Europe. Imaginez-vous, des caméras installées dans les toilettes des femmes afin de poster les vidéos sur les sites pornographiques à l'insu des femmes. Eh bien, il s'est passé à peu près la même chose il y a 2 ans. C'est un homme de 23 ans qui est à l'origine du scandale, la Hens Room. Son but était de récupérer toutes les données d'une femme, leurs adresses, leurs noms, leur numéro de téléphone, etc., et se faisait passer pour quelqu'un de la police dans le cadre d'un soi-disant enquête, tout cela afin de les faire chanter et de les manipuler. Mais comment choisissait-il ses cibles ? Il cherchait sur différents réseaux sociaux des profils de femmes qui ont posté des photos à caractère sexuel public, mais de façon générale en anonyme. C'est ici que le côté manipulation et chantage rentre en jeu. Si les femmes ne font pas ce qu'il veut, les photos intimes seront diffusées à leurs proches et même leurs adresses afin qu'elles se fassent agresser. La pression est énorme et les criminels ont joué dessus. Les victimes doivent alors envoyer des vidéos ou des photos allant de photos dénudées aux choses complètement horribles comme de s'écrire esclave sur le corps avec la lame d'un couteau. Les femmes qui ont essayé de résister voient leurs informations donné à plusieurs rooms sur l'application Chatroom Telegram pour venir les violer. Chaque room aurait eu une spécialité et le plus choquant, c'était le type de vidéos partagées et les commandes réalisées par les différents acteurs de la room. On parle plus de 260 000 personnes impliquées dans les rooms et au moins 103 femmes, dont 26 mineurs, ont été exploitées à se prendre en photo et à pratiquer des actes sexuels. Le scandale a fait beaucoup parler de lui et a recueilli plus de 2 millions de signatures pour que le nom des criminels soit divulgué au public. Malheureusement, en Corée du Sud, les peines sont très légères et les suspects s'en sortent facilement. Mais ne vous inquiétez pas pour les acteurs de la Hens Room, ils ont bien été poursuivis en justice et arrêtés pour certains. La Corée du Sud nous vend que du bon côté des choses, ce n'est pas tout rose comme dans les dramas coréens. Mais voyez au-delà de cette image parfaite.
Bien, ça fait froid dans le dos. Merci pour cette chronique.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Et
Et je reprends l'antenne car il est temps de laisser la parole à votre présentateur qui vous a accompagné depuis le début, l'incroyable, le beau, le fameux Hugo. Bonjour Hugo, comment vas-tu ?
Eh bien, bonjour Anthony, je vais très bien. Et toi ?
Eh bien, ça va très bien. Il est temps pour toi donc de commencer ta chronique. Vas-y donc.
Parfait. Donc, après avoir parlé de l'Asie principalement, nous allons maintenant parler de la mère patrie, la Sainte-Russie, où Vladimir Poutine va maintenant être protégé par la justice de son pays à vie. En fait, les députés russes viennent d'approuver un projet de loi qui garantit à tous les anciens présidents russes une immunité judiciaire. Mais alors, qu'est-ce qu'une immunité judiciaire ? En fait, ça veut dire que toute personne qui a occupé le poste de président de la Russie ne pourra plus être fouillée ni interrogée, et ce, même une fois qu'elle aura quitté son poste de président. Jusqu'à présent, un président ne pouvait pas être poursuivi en justice, mais que pendant son mandat. Et du coup, il pourrait être interrogé dans le cadre d'une enquête après son mandat, mais avec ce projet de loi, ça ne sera plus le cas. Mais du coup, avec ce projet de loi qui devrait bientôt être approuvé par Vladimir Poutine, quels sont les avantages ? Donc cette immunité, en plus de protéger le président, va être accordée à toute sa famille. Donc toute sa famille et tous les présidents russes à venir, et les plus anciens aussi. Donc ça protégera son patrimoine immobilier, ses moyens de transport, ses communications et encore ses documents et bagages. Donc il ne pourra plus être fouillé aux aéroports, il ne pourra même plus être fouillé ou ses appartements fouillés dans le cadre d'une enquête judiciaire. Donc à noter que, d'après certaines rumeurs en Russie, ce projet de loi a été voté dans la prévention et dans la préparation surtout d'une éventuelle démission de Vladimir Poutine pour des problèmes de santé. Cela dit, le pouvoir russe a rejeté ces rumeurs publiées par des tabloïds britanniques.
Les Chroniques de l'Orient Express, une émission préparée par les étudiants du DUT MMI du Puy-en-Velay.
Bien, Amandine, bonjour.
Bonjour Hugo.
Te laisse le temps.
Donc, on parle beaucoup des impacts que vivent les Français, surtout en France par rapport au confinement, la crise sanitaire en général. Mais cette fois-ci, conjuguons destination de vacances et Covid, et direction le Moyen-Orient. On va s'intéresser à un petit pays du Golfe qui vit un coup dur depuis le confinement de mars dernier. Et pour cause, puisqu'ils reposent leur principale économie sur la production et l'exportation de pétrole et sur le tourisme. On rappelle, secteur qui souffre beaucoup de la récente chute des cours du pétrole et la paralysation touristique sur toute la surface du globe depuis le Covid. J'ai donc nommé les Émirats Arabes Unis.
Tiens, c'est vrai. Comment ils vivent cette crise sanitaire là-bas ?
Eh bien, avant d'en parler, rappelons quelques faits d'abord. Ce petit pays qui a à peine 10 millions d'habitants, dont 90% sont des étrangers selon l'ONU, est ultra dépendant de main-d'œuvre étrangère, notamment dans le secteur du BTP ou aussi dans le secteur touristique. Et surtout dans le tourisme de luxe d'ailleurs. Ça attire les clients les plus riches du monde et ils viennent passer leurs vacances à Dubaï et ont souvent des besoins démesurés. Sauf que depuis les récents événements, eh bien, les avions, les aéroports, les centres commerciaux ou les restos, eh bien, ils sont vides, presque plus aucun touriste, ce qui entraîne du coup un impact énorme sur toute l'économie du pays. En plus, ce pays du Golfe ne propose pas d'aide sociale aux plus démunis ou un système de santé correct. Donc les milliers de travailleurs étrangers qui sont renvoyés des hôtels ou des restaurants de luxe, eh bien, ils se retrouvent dans une misère sans nom et misent tout leur espoir sur le retour dans leur pays d'origine. Mais bon, c'est évidemment pas si simple forcément, puisque les billets d'avion vers l'Inde, le Pakistan, l'Asie du Sud-Est en général, eh bien, ils sont chers et ils sont difficiles à acquérir. Et on rajoute au fait que les entreprises du pays, eh bien, ils prennent les passeports de leurs salariés à l'embauche et ils n'ont pas l'obligation de leur rendre, même quand ils sont renvoyés, histoire de se les garder sous le coude au cas où. Du coup, on se retrouve avec des milliers, voire des millions de travailleurs au chômage dans l'impossibilité de revenir dans leur pays d'origine, sans argent et sans passeport. Finalement, ce pays de la démesure continue d'accentuer les écarts de richesse au sein de la population. Et une pandémie mondiale ne fait qu'aggraver la situation, évidemment.
Ah ouais, et d'un point de vue sanitaire, du coup ?
Eh bien, on note une hausse crescendo des cas Covid depuis mai 2020, et ça n'a pas l'air de vouloir diminuer. Ils arrivent apparemment à gérer correctement l'épidémie, mais qu'en est-il des presque ghettos s'ils ont à peine d'argent pour survivre et payer leur loyer, on doute qu'ils aient de l'argent à dépenser dans des masques et autres gels hydroalcooliques. Et difficile aussi de respecter les gestes barrières quand on vit à 10 dans 10 mètres carrés. Et malheureusement, c'est un problème qu'on retrouve dans de nombreux pays où il y a beaucoup de misère. Les Émirats, la fin de l'Eldorado, finalement, on réfléchira peut-être à deux fois avant de réserver ses prochaines vacances à Dubaï.
Bien, merci Amandine pour cette chronique.
Merci Hugo.
Mais pas de soucis.